Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Résistance, une radio éphémère qui va émettre pendant 4 jours ici sur le Larzac, une radio particulière qui est la coordination de 14 radios associatives d'un peu partout en France, de Bordeaux à Paris, de Figeac. Bonjour Frédéric d'ailleurs de Radio Antendoc. Donc merci à toutes ces radios associatives dont vous allez avoir 24 heures sur 24 pendant 4 jours sur la fréquence ici sur le Larzac 98.6, mais en streaming sur vos radios préférées. Écoutez sur Radio Antenne Doc, sur Radio Larzac, sur Radio Pays d'Hérault, etc., etc. Non-stop, en direct des luttes, en direct de ceux qui luttent, en direct de ceux qui ont lutté et en direct aussi de ceux qui lutteront. Frédéric, parmi ceux qui luttent, aujourd'hui on a nos invités.
Nos invités, ce sont les faucheurs volontaires d'OGM qui sont là depuis 20 ans, on va fêter les 20 ans cette année. Alors ce mouvement, il est né donc il y a 20 ans de lutte contre les OGM, contre les pesticides. Vous dénoncez leurs conséquences sur la santé et sur l'environnement. Et on va parler de tout ça avec vous, ici présents, avec Yom, avec Christine, avec Mireille, avec Jean-Claude, tous issus de cette vague de faucheurs volontaires, de la première vague d'ailleurs, c'est ça ?
Christine.
Alors ça a commencé il y a 20 ans sur le Larzac, en 2003. Peut-être vous rappelez que le rassemblement qui a eu lieu en 2003 contre l'OMC à l'époque, c'était contre l'Organisation Mondiale du Commerce. Donc il y avait des centaines de milliers de personnes sur le Larzac. Et la Confédération Paysanne Nationale avait déjà commencé à poser le problème des OGM, donc des plantes génétiquement modifiées, à l'époque des plantes même transgéniques. Et la Confédération Paysanne avait commencé à mener des actions dès les années 98. Il y avait déjà eu des procès et tout. Et donc se trouvait un peu en difficulté parce que seul un peu à se battre contre ce monstre. Bon, il y avait d'autres associations comme Greenpeace aussi et tout. Mais la société civile, à l'époque, n'avait pas pris le relais. Et donc Jean-Baptiste Libouban de l'Arche, que certains peut-être connaissent, et certains paysans de la Confédération Paysanne ont eu l'idée d'élargir ce mouvement et de proposer cette lutte à toute la société civile. Parce qu'en fait, l'alimentation, c'est pas que le problème des paysans, c'est même pas du tout le problème des paysans, c'est le problème de tout un chacun. Alors, du coup, Jean-Baptiste a créé le mouvement des faucheurs volontaires avec le premier bureau d'embauche en 2003 ici sur la Larzac, pas très loin d'ici, à peu près à la même date qu'aujourd'hui, il y a 20 ans. C'est assez émouvant même d'y penser. Et il a commencé à embaucher les premiers faucheurs volontaires, dont certains sont ici déjà. Sont encore là et sont dans le mouvement depuis le premier jour.
Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ce mouvement ?
Le cœur de l'action des faucheurs volontaires, ça a été effectivement l'action de désobéissance civique non violente. Important, hein, dans ce qu'a lancé Jean-Baptiste, il y avait une charte des faucheurs où vraiment la non-violence était inscrite dans le marbre de cette charte. Et donc effectivement, je complète ce qu'a dit Christine, il y a eu à peu près 450 inscriptions sur le plateau du Larzac en 2003. Mais c'est important de rappeler que c'est pas les faucheurs qui ont commencé, c'était face à la difficulté pour les paysans, notamment de se battre tout seul depuis 97, en fait, à Saint-Georges-d'Espéranche, qui était le premier acte de fauchage sur du colza transgénique de Monsanto. Il était important que la société civile prenne le relais. Et donc, en 2003, plateau du Larzac, 400 inscriptions, premier AG officiel des faucheurs volontaires un an plus tard à côté de Toulouse, à Verdun-sur-Garonne. Et premier fauchage des faucheurs volontaires en tant que collectif citoyen. Ce n'est pas une association, hein, faut le rappeler, hein. On n'a pas d'existence légale, on est un collectif citoyen non violent. Et donc première action à Verdun-sur-Garonne en 2004. On était un bon gros millier. Et alors je tiens à préciser qu'il va y avoir cet après-midi une intervention en image au chapiteau Kaléidoscope à partir de 15h où je vais raconter toute cette histoire basée sur des images et quelques petits films de 2 à 3 minutes où là je vais vous retracer l'intégralité de l'histoire de la lutte contre les OGM agricoles et les pesticides dans les champs avec plein d'anecdotes et puis tout ça. Donc viendez nombreux en soutien aux faucheurs volontaires.
Christine ?
Oui, je pense que c'est important d'expliquer aussi pourquoi ça pose problème justement les OGM.
Oui, les OGM c'est quoi en fait ?
Oui, Mireille, qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense qu'il faut comprendre ce que ça veut dire le contrôle. OGM, c'est organisme vivant. Dès qu'on parle du vivant, on parle des graines, mais on parle aussi de nous, de tout. Et c'est la mainmise sur le contrôle du vivant. Ça a été génétiquement modifié par la main de l'homme. Et il y a des pseudo-scientifiques qui te disent « Ah, mais l'homme, il a toujours fait de la sélection. » Non, il a sélectionné ce que la nature avait produit, ce qui est déjà avec des conséquences, parce qu'on a aussi perdu de la biodiversité en trop sélectionnant, mais on sélectionnait ce que la nature faisait. Et on prenait ce qui nous plaisait. Là, c'est fait intentionnellement pour des modèles agricoles bien particuliers, qui sont les modèles agro-industriels. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui sur le marché ? Que des plantes pesticides, soit celles qui tolèrent des herbicides, soit celles qui sécrètent des insecticides. Et qui sait qu'il y a des brevets ? Ce sont les multinationales. Donc on a volé les semences paysannes, qui étaient les semences qu'on avait fait évoluer, qui étaient gratuites, accessibles à tous. On les a brevetés. Et ça, c'est majeur. C'est cette notion de contrôle pour des soi-disant progrès qui vont dans un système industriel qui est celui qui est en train de bousiller le monde entier. Et ce système de contrôle sur la nature, il rejoint celui du contrôle sur l'humain. C'est la même chose. D'abord, aujourd'hui, ça déborde partout, les OGM. Les promesses qu'ils nous avaient faites sur les OGM, ça, rappelez-vous-en, il y a 30 ans, c'était pour nourrir le monde. Vous avez vu comment on nourrit le monde ? On l'a empoisonné. Toutes les techniques qu'ils ont fait, ça a créé plus de pesticides, ça a créé des résistances aux insecticides, ça a détruit des pays comme le Brésil, l'Argentine, etc. Vraiment, le bilan, il est là. Et aujourd'hui, on passe dans une autre étape de promesses, les promesses de demain. Parce que figurez-vous qu'on ne fait pas une société pour les besoins essentiels des hommes, on fait une société pour un modèle économique. Et tout doit se plier, tout le vivant, des plantes aux animaux, aux êtres vivants, doit se plier à ce modèle. Et la meilleure façon, c'est de prendre le pouvoir sur ce qui est fait naturellement et de le breveter. Donc là, vous avez l'instrument majeur au niveau de l'alimentation, entre autres, c'est les OGM agricoles. Parce que nous, les OGM, pour faire des études dans des labos, à la limite, ça ne nous gêne pas si c'est pour comprendre. Nous, c'est tout ce qui est diffusé à l'extérieur. Ça regarde tout le monde. Les gens n'ont pas la notion de l'importance de ce que c'était. Et jusqu'à là, on avait un étiquetage. Aujourd'hui, ils veulent tout supprimer. Tout supprimer, le langage habituel. Bon, on a l'habitude, hein, c'est ça en ce moment. Hein, on enrobe tout d'une nouvelle façon de parler. Comme ça, les gens y comprennent moins.
Oui, Christine ?
Oui, ce qui est important de dire, c'est comme l'explique Mireille aussi, c'est que toutes ces modifications, toutes ces plantes modifiées, on les retrouve dans l'alimentation. Dans l'alimentation humaine et animale. Et donc, ce sont pour la plupart des plantes qui sont résistantes à des pesticides. Donc, ce n'est pas un progrès, ni pour l'animal, ni pour nous. Donc, c'est pour ça que notre mouvement, qui dure depuis 20 ans, mais n'est pas prêt de se terminer.
D'ailleurs, il faudrait expliquer un peu, pour faire un peu de pédagogie, ce système-là, on parle du glyphosate, du Roundup, sur le soja, le maïs. Il faudrait expliquer pourquoi, au fond, on est en train de rendre des plantes tolérantes à un insecticide. Enfin, c'est le même qui fait tout ça, d'ailleurs. Il faudrait expliquer un peu, parce que c'est pas clair. C'est pas clair pour les auditeurs, peut-être même pas pour moi. Expliquez un petit peu.
En fait, c'est pas le même, justement. Hein. Donc, chaque plante est résistante spécifiquement à certains insecticides ou à certains désherbants. Toi, tu parlais du glyphosate. Donc ça, c'est pour le maïs transgénique. Il est résistant au glyphosate comme désherbant, tu vois. Mais par contre, il contient un autre insecticide. Donc, chaque plante, c'est ça d'ailleurs qui fait la fortune des semenciers, c'est que chaque plante, comme elle est spécifiquement résistante à un désherbant, les agriculteurs doivent acheter la semence et le désherbant qui va avec.
C'est pour ça que Bayer a racheté Monsanto, non ?
C'est pas que pour ça, mais certainement, de toute façon, c'est pour continuer dans le même sens. Mais ce qui est important, c'est que tout ça fait la fortune énorme de tous les gros lobbies de semences, puisqu'ils produisent la semence et ils produisent les pesticides qui vont avec. Et comme je t'ai expliqué, tous les pesticides sont sélectifs. Donc, pour chaque plante, il faut un autre pesticide. Donc, le commerce est infini.
Il y avait deux types, c'est bien expliqué, parce que vous parlez des plantes qui ont été rendues tolérantes à des herbicides, hein, notamment le glyphosate, tout le monde connaît, et des plantes qui ont été rendues sécrétantes de certains insecticides. Bon, sur celles qui sécrètent les insecticides, ils vendent pas, sauf qu'ils ont le brevet sur le truc. Mais maintenant, ils empilent tout ça, c'est-à-dire que dans la même plante, tu peux avoir des résistances à deux herbicides, et des fois, tu te sécrètes des fois deux insecticides. Vous voyez jusqu'où on est allé ? Pourquoi ? Pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'à mesure que tu utilises du glyphosate, forcément, le vivant s'adapte, il y a de la résistance, donc on augmente les doses, donc il faut trouver un autre pesticide. Quand on met des insecticides qui soient naturels ou sécrétés par la plante de façon artificielle, au bout d'un moment, il y a de la sélection. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On remet un autre gène pour résister encore à autre chose. Vous voyez, c'est une course en avant, c'est une course d'armes contre le vivant. Et d'armes qui, en plus, nous empoisonnent l'environnement et font du fric et volent la population. Hein ?
Oui, je veux juste rajouter à ta question,
Jean-Claude.
À ta question, Robert, que Ça marche aussi parce que là, il y a eu des modes de culture qui ont amené énormément de plantes adventices, de mauvaises herbes, enfin de mauvaises herbes, mauvaises entre guillemets, dans les champs, notamment au niveau du tournesol, l'ambroisie ou d'autres plantes. Ça, c'est lié à des erreurs de culture, à l'absence de rotation, à l'épuisement des sols. Et donc arrivent là des cultures où il y a donc qui sont saturées de mauvaises herbes. Et là arrivent ces plantes soi-disant miracles qui vont permettre donc de balancer un désherbant qui va être absorbé par la plante. C'est pas simplement un désherbant qui va aller dans le sol et qui va détruire les mauvaises herbes et toutes les herbes autour, mais qui va être aussi absorbé par la plante, pardon, et se retrouver dans l'alimentation.
Guillaume. Oui, je voulais rajouter juste ce qui est très très intéressant dans ce débat sur les OGM, c'est qu'en fait on a trois grandes étapes dans cette lutte contre les OGM. La première que j'expliquais tout à l'heure, c'est les paysans qui s'y mettent de 97 à 2003. 2003, les faucheurs prennent le relais, mais que ce soit les paysans ou les faucheurs volontaires, au départ, on se bat contre une catégorie de plantes qui sont obtenues en laboratoire par une technique qui s'appelle la transgénèse, et je ne rentrerai pas dans les détails. La finalité de cette transgénèse étant soit de faire sécréter un insecticide, soit de faire tolérer un ou des herbicides. Il faut qu'on arrête de dire glyphosate parce que c'est le Roundup qui intègre le glyphosate. C'est pas que le glyphosate qui est un problème. On se bat, les faucheurs. Et en 2008, on a une première grosse victoire quand même, qui est l'interdiction du seul maïs autorisé à la plantation en Europe, qui lui est, dont peut-être beaucoup de gens se rappellent le nom, c'est le Monsanto 810, et qui était une plante insecticide. Le problème, c'est qu'en parallèle, à partir de 2008, 2009, 2010, on ne sait pas encore très très bien, mais arrive une nouvelle génération de plantes qui ne sont pas modifiées par transgénèse, c'est-à-dire par l'intégration d'un gène extérieur qui amène une nouvelle caractéristique à la plante. Mais on va commencer à voir apparaître des colzas et des tournesols, donc on n'est plus sur du maïs, mais qui sont obtenus par mutagénèse. La grosse différence entre la transgénèse, où on insère un gène extérieur, et la mutagénèse, c'est que la mutagénèse, on va faire muter des gènes naturels de la plante pour obtenir quoi ? Devinez, de la tolérance à de l'herbicide. Donc on est sur, avant 2008, transgénèse pour obtenir de la tolérance à un herbicide, et après 2008, sur de la mutagénèse pour tolérer aussi de l'herbicide. Avec une grosse nuance entre les deux grandes catégories, c'est que si la transgénèse était techniquement considérée comme un OGM, et donc légalement aussi, ce qui impose des évaluations sanitaires, environnementales, avant le passage en grande culture, avec la mutagénèse, on est techniquement considéré comme un OGM, mais on est exempté de la législation sur les OGM, c'est-à-dire que ils ont envahi nos champs avec des plantes mutées qui tolèrent de l'herbicide. Aujourd'hui, là, je suis en train de parler du présent. Et c'est pour ça que la lutte anti-OGM est loin d'être terminée dans ce pays, à cause de ces colzas et de ce tournesol mutés qui tolèrent de l'herbicide, comme le maïs transgénique tolérait de l'herbicide, en échappant à la législation. C'est bien tout le problème de ces foutues plantes mutées.
Et donc, oui, c'est pour ça qu'on continue, nous, le combat. Donc, on considère qu'on est des lanceurs d'alerte, en fait, quoi. Donc, on veut continuer à informer la société civile de toutes ces plantes qui posent de vrais problèmes pour la santé humaine ou animale. Et que, malheureusement, nos politiciens, les lobbies, même l'Europe, vont ouvrir la porte toute grande à toutes ces plantes-là, sans aucune restriction. Donc, qu'est-ce qui va rester la société civile pour dire non, nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas de vos plantes pesticides. C'est pas ça qu'on veut dans notre assiette. Notre combat n'est pas terminé.
Alors, justement, moi, j'aimerais bien savoir comment on repère ces champs.
C'est bien toute la complexité que l'on a aujourd'hui.
C'est super compliqué.
C'est que sur la transgénèse, c'était extrêmement facile de détecter les champs. D'ailleurs, on avait des méthodes extrêmement simples pour détecter que l'on allait viser le bon champ de maïs. En gros, c'était du maïs à l'époque transgénique qui était modifié pour obtenir de sécréter de l'insecticide ou tolérer de l'herbicide. Après, on a eu des tests. Mais avec les plantes mutées, c'est extrêmement compliqué de détecter pour qu'on soit sûr de pas se tromper de parcelle. Donc, on a deux modes d'action contre ces plantes mutées. C'est soit au champ, quand on est sûr de ce que l'on va faire, c'est-à-dire si vous détectez du tournesol avec rien au sol, hormis du tournesol, on peut se dire, il y a eu un petit passage d'herbicide, tout a tenu, mais c'est même pas sûr, parce que s'il y a trop d'herbicide qui est mis, la plante peut crever quand même, enfin bon, bref. Et par contre, l'autre action que l'on a, et là où qui est pas mal développée depuis pas mal d'années, c'est de s'attaquer directement au sac de semences, puisque les OGM doivent respecter des critères commerciaux, techniques, je rentre pas dans les détails. En tout cas, sur les sacs de semences, c'est indiqué, parce qu'il y a des noms commerciaux, Clearfield, Express Sun, et ça, on sait que ce sont des plantes mutées qui le sont pour tolérer de l'herbicide. On essaie de trouver des stocks. C'est pas facile de trouver les stocks, mais une fois qu'on les a trouvés, il suffit de mélanger, parce que si vous mélangez des semences, on peut plus les vendre parce qu'elles respectent plus les caractéristiques initiales annoncées sur le sachet, quoi.
Pour une action, comme vient de vous expliquer Guillaume, on a eu un procès dernièrement dans l'Aveyron sur une action qu'on avait menée à la RGT en 2019, oui. Et donc, ça nous a mené à un procès dernièrement à Rodez, où on a été condamné pour destruction de biens privés en Réunion, et pour lequel on va faire appel, du coup, parce que nous, on considère qu'on est des lanceurs d'alerte. Au contraire, on n'a pas à être condamné pour une action où, en fait, ce sont les semenciers qui empoisonnent la plante. J'espère qu'un jour, ce seront eux qui seront dans les tribunaux pour, justement, avoir empoisonné la planète.
Alors, beaucoup d'actions, depuis tout ce temps, du fauchage, de façon non violente, Guillaume l'a dit, à visage découvert, pas découvert, et puis les semenciers, ils ont réagi quand même, parce qu'ils vous ont ils vous ont mis devant les tribunaux.
Vas-y, bah, Mireille.
Le procès, c'est aussi une façon pour nous de se faire écouter, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche surtout que ça s'arrête. En plus, c'est pas une interdiction, hein. On veut que les gens sachent ce qu'ils mangent, que les paysans sachent ce qu'ils cultivent et qu'on puisse décider un peu de notre avenir. C'est quand même débile. Tu as le droit de manger sans viande, tu as le droit de manger halal. Moi, j'ai rien contre. Je trouve que c'est un droit. Et là, bientôt, tu peux manger OGM sans le savoir. Tu vas acheter des tomates, c'est marqué Roma, cœur de bœuf. Et là, on veut pas te dire qu'elle est trafiquée en labo et que c'est des brevets derrière. Mais où il est le droit là? Où il est notre... Enfin, je sais pas, on a le droit de choisir quand même. C'est bizarre, on nous donne le choix sur la couleur des choses et puis pas sur des choses essentielles. C'est extrêmement grave parce que derrière, il y a de la santé, il y a de l'environnement et il y a du brevet, quoi. C'est-à-dire de l'argent. De l'argent et du vol des semences. Je veux dire, c'est extrêmement grave. Et pourquoi aujourd'hui on est obligé? Pourquoi? C'est parce qu'il les cache. C'est pour ça que c'est difficile. Ça s'était étiqueté avant, on savait, on avait en plus des méthodes quand c'était caché. Mais là, aujourd'hui, ils nous mentent tout le long. Donc, il faut évidemment qu'on soit vraiment assez vigilants. Alors, on a aussi des luttes qui sont des luttes pour essayer de faire avancer la législation. Hein. Faut pas croire qu'on est que dans les champs. On est aussi beaucoup dans des processus de discussion, de revendications écrites, orales, des rencontres, etc. Mais bon, ça marche pas. Ils s'en foutent, si vous voulez. Les autres, derrière, il y a une puissance d'argent qui est telle que voilà,
on dirait que c'est des paroles et des actes, que ce soit au niveau français, au niveau européen. On a l'impression qu'on prend le problème en compte.
Oui.
L'EFSA européenne a dit que finalement, c'était pas si que si que là. On dirait qu'on...
Il y a la façade avec le greenwashing, avec des jolis discours. Alors, notre gouvernement actuel, il est fort à tous les domaines hein, pour ça. Et derrière, ils font exactement le contraire. Alors, si possible, on enrobe en changeant les mots, en mentant aux gens, en faisant des omissions. C'est vraiment dégueulasse parce que dans un État démocratique, franchement, moi, je suis exaspérée de tout ce qui se passe parce qu'on ment aux gens, on les prend pour des andouilles toute la journée sur des choses essentielles.
Macron, vous avez compris, hein, je crois que dans sa campagne électorale de 2017, il avait décidé d'interdire dans l'année ou dans les 3 ans qui viennent le glyphosate. Il l'a fait d'ailleurs et il est revenu de suite en arrière sous pression
de qui?
De la FNSEA.
Mais chaque fois, c'est les mêmes. Vous vous rendez compte que c'est ce mouvement-là qui s'appelle la FNSEA qui gouverne, hein, qui a fait des actions de violence inouïe envers des structures de l'État, envers des personnes, qui se permet de demander à être couvert par une espèce de milice de l'État qui s'appelle Déméter, je suis désolée, c'est quand même grave, quoi. C'est eux qui accusent des mouvements comme les soulèvements de la terre, ou les faucheurs, de violents. On n'a jamais levé la main sur personne, nous. On a détruit des champs, de choses, parce que c'est pour le bien commun. Ça nous rapporte rien que des ennuis et du temps passé, hein.
Et des nuits blanches.
Voilà. Les autres, ça leur rapporte de l'argent. Nous, c'est le système. On n'est pas contre les paysans, au contraire, puisqu'on les défend depuis le début. C'est le système agricole défendu par les gros de la FNSEA qui font crever tous les petits paysans. Hein, parce que les gros, là, ils ont pris où les terres? Ceux qui ont 700 hectares, là, qui commandent au niveau du syndicat, ils achetaient à qui ces terres? À des écolos ou à des petits paysans qui ont mis la clé sous la porte? C'est pas moi qui fais ce système capitaliste, c'est eux qui le promeuvent, ce système agro-industriel qui détruit et qui fait que 4 gros paysans. Les paysans diminuent, hein. Le seul truc qui augmente, c'est la taille des exploitations. Alors posez-vous les questions. Qui c'est qui mange les autres? C'est pas les écolos. C'est les paysans qui se mangent entre eux, c'est les gros qui mangent les petits.
Oui, Guillaume. Oui,
j'avais juste envie pour que les auditeurs se rendent bien compte de l'action des faucheurs. Alors déjà, faut quand même pas oublier que les faucheurs n'ont pas fait que faucher. Ils ont fait un nombre de réunions incommensurables avec les institutions, des pétitions, des rencontres avec la DGL, ministre de l'Environnement, ministre de l'Agriculture. On est allé jusqu'à l'Europe. Juste pour que vous vous rendiez un petit peu compte de l'action entre 97 et 2008. Je vais déjà m'arrêter là, qui est la première grosse victoire sur les OGM. Nous avons, à peu près, mené 130 actions contre du maïs transgénique, puisque c'était l'essentiel des actions. Ces 130 actions ont emmené à une centaine de procès. Faut se rendre compte de ça, mais vous demandiez tout à l'heure un petit peu l'importance et le temps passé, ça n'a pas été que des nuits blanches, justement. C'est pas anodin dans l'histoire de la société, une centaine d'actions menant sur 130 procès, ça débouche sur des condamnations, quasiment tout le temps, hein, que les choses soient claires, hein, même si c'est le politique qui a fini par nous donner raison en interdisant le Monsanto 810. Rarement la justice nous a donné raison suite à une action de désobéissance civique dans un champ. Il faut vraiment que les gens s'en rendent compte. Et tout ça a débouché sur beaucoup de condamnations qui ont mené sur des frais, et c'est aussi des frais de justice, hein, dommages et intérêts, juste aussi pour que les auditeurs se rendent compte, juste entre, en gros, 2003 et 2013, où on a fêté nos 10 ans, je me suis amusé à faire un petit calcul, juste en dommages et intérêts, nous avons lâché 1 million d'euros. Juste en dommages et intérêts, hein. Donc ça, il faut aller chercher, il faut que vous veniez nous rencontrer sur les stands avec les faucheurs, qu'on vous explique toute cette lutte, puis aussi pour essayer de collecter du soutien financier, parce que la lutte n'est pas terminée, notamment avec ces plantes mutées, et ce que rappelait Christine tout à l'heure, le procès de Rodez qui vient d'avoir lieu, il y a eu appel, donc il va y avoir un deuxième round, et ce n'est qu'une...
Oui, parce qu'on a d'autres procès en bien appel... Sûr. Un procès important à Toulouse aussi, où on a des gros dommages et intérêts, et on est allé en appel. Oui, c'est
ça. Je crois qu'à Toulouse, c'était la première fois où les dommages et intérêts demandés étaient exorbitants, Jean-Claude.
Oui, mais justement, pour revenir sur ce que décrivait un peu Mireille tout à l'heure, ce système mafieux, il s'agit de ça. On parle du procès de Toulouse, où on nous a demandé, donc en première instance, on était condamné à 450 000 euros de dommages et intérêts. Mais il y avait aussi, il y a eu récemment le procès de Dijon, où la partie civile est venue au tribunal en demandant 8 millions 800 000 euros. Et c'est basé sur du mensonge, parce que ce que disait Mireille, c'est bien ça. Nous, ce qu'on dénonce, c'est l'obscurité totale de ce qui va arriver dans l'assiette, de ce que vivent les voisins, hein, même des champs. Voilà, c'est cette présence des pesticides. Mais on a un système mafieux, c'est-à-dire qu'ils veulent gratter à chaque fois, quoi. Et donc Toulouse, 450 000 euros, oui, avec un procès inique, un procès où nous n'avons absolument pas eu le droit à la parole. Et là, déjà, ça inaugure un peu ce mouvement de répression qu'on commence maintenant à voir sur les soulèvements de la terre, sur tous les mouvements à l'heure actuelle qui luttent, quoi.
Moi, j'avais l'impression également, au procès de Rodez, qu'il y avait une écoute de la part de la juge. Alors, est-ce que c'est une impression ?
Non, peut-être pas une impression. Moi, je pense que la juge, elle a écouté, mais je pense pas qu'elle soit libre de sa décision. Et les juges dans une petite ville à Rodez, tout le monde se connaît dans une petite ville. Le procureur, les juges, les avocats, c'est tous des gens du même milieu, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même un milieu que tout le monde ne fréquente pas. Par contre, eux, ils se fréquentent entre eux. Et je crois que malheureusement, tous ces magistrats, tous ces avocats, ne sont pas forcément libres de leurs décisions dans une petite ville. Donc certainement qu'elle nous a écoutés. Mais
elle a été sensibilisée.
Elle a été sensibilisée sur le côté lanceur d'alerte, mais elle est restée bloquée sur l'aspect destruction de biens privés en réunion. Mais je veux dire, c'est dommage pour elle, parce que je crois qu'elle part à la retraite. C'était une occasion pour elle, peut-être, de sortir par le haut et de enfin faire rentrer dans la justice un autre aspect de la défense de la société civile, parce qu'ils sont là quand même pour défendre la société civile, qui serait le bien commun. Elle aurait pu, par cette action, dire « Ouais, bon, il y a eu cette destruction, mais ce qui était plus important, c'est qu'on a... On a alerté sur un problème bien plus grave, qui est la destruction de l'environnement, plus important que la destruction du bien privé et que ce qu'on a ouvert. On a ouvert quelques sacs qui ont bien été vite, à mon avis, refermés et revendus.
À 12 donc, euros le sac, voilà. Enfin, ça a été mentionné aussi par les avocats, c'était
Donc, je crois que la justice aujourd'hui n'ose pas encore défendre le bien commun, n'ose pas défendre la planète. Et on espère que dans les années à venir, bientôt, avec la nouvelle génération des juges qui va arriver, peut-être que ça va changer.
Je sais pas, apparemment, la justice, elle défend pas non plus les policiers, d'après les policiers. Donc,
quelle justice on a dans ce pays ? J'ai jamais remarqué qu'ils défendaient pas les policiers, par contre. Alors ça, je voudrais que tu me donnes un exemple. Où en France...
Ah, c'est les policiers qui se plaignent.
Oui, les policiers se plaignent. Mais alors, moi, j'aimerais le voir par écrit, ça, parce que j'ai jamais remarqué ça, quoi.
Ce qui est intéressant dans ce que dit Christine, c'est que la justice nous condamne, post-action, faucheur volontaire. On est quand même dans un pays où il y a une charte de l'environnement accrochée à la Constitution qui donne le droit à un environnement sain. Or nous, quand on est au tribunal, on plaide l'état de nécessité, c'est-à-dire l'action proportionnée par rapport aux dangers que représentent les OGM et les pesticides associés, pour que l'on soit... assimilés comme des lanceurs d'alerte en tant que tels pour la défense de l'environnement, de la société. Parce que les OGM, c'est quand même un truc qui cristallise l'intégralité des développements de notre civilisation. C'est-à-dire l'économique, l'environnemental, l'éthique, le politique, le philosophique, l'agricole, tout. On retrouve toutes les thématiques délétères qui nous mettent en danger. Je dis nous, le vivant. Et voilà, on se bat contre ça. Et Jean-Claude voulait peut-être compléter sur un point.
Oui, déjà dire qu'à Perpignan, il y a 3 ans, cet état de nécessité a été reconnu et il y a une relaxe totale. Nous avions fauché 3 hectares de semences. On fauche essentiellement de la semence, donc de tournesol. Voilà. Mais dire aussi qu'il y a un procès qui va avoir lieu à Carcassonne le 6 novembre et qui est un procès qui est dans les mêmes conditions d'action que si ce qui est fait à la RAGT et qui a donné lieu à ce procès de Rodez. Et ce qui est vraiment important, c'est le soutien extérieur. C'est-à-dire, il y a à la fois le tribunal, l'audience, mais ce qui se passe dans la rue et qui monte une pression et un intérêt et une conviction, ça aussi peut influer sur le cours du procès. Donc ça, c'est le 6 novembre à Carcassonne, suite à une action qui a eu lieu à Castelnaudary.
Alors, est-ce que, au-delà de la sympathie que semble avoir un certain nombre de mouvements de désobéissance civile, de remise en cause de la société, est-ce que les faucheurs volontaires vous recrutez de plus en plus ou vous sentez une forme, au-delà de la sympathie, d'essoufflement de ce mode d'action?
C'est un peu compliqué pour nous parce que effectivement, il y a peut-être les champs, c'est difficile aujourd'hui, c'est moins spectaculaire. Et puis les faucheurs et vous avez vu tous les gens qui se battent, vous avez vu toutes les luttes qu'il y a, le problème il est là. C'est que nous aussi on est sur toutes les luttes, c'est assez compliqué. Il y a des jeunes qui arrivent effectivement, mais bon, après il y a un problème de dispersion sur toute la France, logistiquement c'est un peu compliqué, mais il faut vraiment que les jeunes comprennent qu'il faut qu'ils viennent en masse, parce que tout ce qu'on fait à côté, s'il n'y a personne dans la rue, ça ne marche pas aujourd'hui. On le voit tous les jours. Et même si dans la rue, on a des répressions. Et moi, je voulais revenir sur les juges. Je pense qu'à Rodez, effectivement, elle est coincée, la juge. Elle a entendu, je pense que quand ils écoutent. Et on leur apprend beaucoup de choses. Et je pense qu'ils ne sont pas à l'aise. Nous, qu'est-ce qu'on a demandé à la RGT? De ne pas vendre certaines semences. Ils en ont des tonnes de semences à vendre. Ce qui nous casse les pieds avec des semences de pesticides. Vous voyez, on dirait tout juste qu'on les empêche d'exister. Non, on veut juste pas ces semences-là. On ne les a pas empêchés de faire les autres. Mais vous voyez, eux, ils disent qu'on les fout presque à la rue, quoi, parce qu'on est toujours en train de... Non, on revendique ça. C'est qu'un petit truc dans leur vente, quoi. Je veux dire, pourquoi ils ne font pas l'effort? Donc, ils ont fait un choix, et puis sur leur site, on l'a vu, le choix. Ils sont pour la promotion de ça, ils sont pour la promotion des OGM, des nouveaux OGM qui soient déréglementés, c'est tout écrit sur le site. On le voit. Alors, ils se sont dit qu'ils étaient du local, mais ils sont affiliés à une multinationale aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, hein.
Jean-Claude?
Ouais, ce qui est peut-être difficile aussi, c'est que notre lutte, elle concerne toute l'artificialisation du vivant. Alors, c'est bien sûr contre les importations, les OGM qui sont produits ailleurs et qui détruisent la vie des paysans et les terres dans des pays d'Amérique du Sud ou ailleurs. Mais c'est aussi, par exemple, dans le dernier épisode sanitaire qu'on a connu, la dénonciation de l'entrée des OGM dans le monde du médicament, et dont peut-être pourrait parler un peu Guillaume. Et nous, les faucheurs, on a pris position à ce moment-là, en dénonçant ces nouveaux vaccins génétiquement...
Tu parles du Covid.
On parle du Covid. Et là, c'est peut-être là aussi où on est extrêmement singulier et mal compris. On sait qu'il y a des... Voilà. Mais on a besoin de défendre ça. Peut-être, Guillaume, tu peux parler de ça.
De toute façon, de manière générale, on est sur une dérive technoscientifique, scientiste de manière générale, sur la science va sauver l'humanité des problèmes auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Sauf que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont issus de la science d'hier. Donc on est cette espèce dans ce cercle infernal là, absolument insupportable. Et juste pour rester sur l'alimentation, ça ne s'arrête pas aux plantes, hein, la modification du vivant. Il y a déjà du poisson homologué, il y a eu des tentatives sur du poulet, il y a eu du cochon aussi. Donc, c'est aussi l'animal. Et juste, j'ai envie d'ouvrir une petite, je ne sais pas si on conclura là-dessus, en tout cas, c'est qu'on vous a déjà parlé de la transgénèse et de la mutagénèse, mais il faut savoir qu'en labo, ils nous préparent d'autres techniques qui sont même plus que préparées, déjà bien utilisées. Et sans parler de l'alimentation, des États, aujourd'hui, officiellement investissent de l'argent dans des programmes d'éradication de certaines espèces, certes invasives, mais elles le sont parce qu'on les y a amenées.
Comme dans certains pays, par exemple.
Moustiques, certains animaux type belette en Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça, lapins, voilà, des États imaginent utiliser la modification génétique pour éradiquer certaines espèces, sans avoir aucune idée des conséquences derrière, parce que la nature n'aime pas trop le vide, on supprime toute une espèce, et puis encore, ok, le moustique, ça nous fait chier la nuit, ça vole dans nos oreilles, mais ça sert juste d'alimentation aux oiseaux. Par exemple, ce n'est pas que le moustique, pour être le moustique qui fait partie d'une chaîne globale. Donc si on supprime un maillon de la chaîne, on peut quand même se poser la question des conséquences sur le reste.
Christine ?
Oui, bon, parce qu'on parlait justement du mouvement, de la vivacité du mouvement. Et moi, ce qui est important de dire aussi, c'est que si on est ici et si on a participé à l'organisation des résistantes, c'est justement pour créer des convergences avec les autres mouvements. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir besoin à l'avenir? Justement, on en a parlé dans l'émission. C'est qu'on va avoir de plus en plus de répression. Et tous ces mouvements écologiques qui veulent se battre contre un capitalisme, quel qu'il soit, hein, parce que le capitalisme vert, il fera pareil que les autres, hein. Donc, tous ces mouvements qui veulent se battre contre ce système qui est actuellement, on va sacrément avoir de problèmes de répression. Donc, le seul moyen pour nous de nous en sortir, et notre seule force, ça va être de s'allier les uns les autres. Même si on n'a pas tous exactement les mêmes revendications, on est tous là pour la même chose. Pour essayer que cette planète, elle dure encore quelques centaines d'années pour les générations futures. Et donc, c'est pour ça que tous ensemble, il faut qu'on se batte maintenant. Il faut qu'on arrête de se diviser. Il faut qu'on trouve ce qui nous relie, ce qui nous unit et ce qui va nous permettre de résister justement à ce capitalisme acharné qui continue à détruire la planète.
Moi, c'est sur la science que je voulais revenir. Parce que c'est pas la science, c'est la technoscience et une partie de cette technoscience qui est choisie par les politiques. Parce que des scientifiques qui défendent les mêmes choses que nous, il y en a plein, mais on les entend pas. On les entend pas, il n'y a pas de sous à gagner derrière. C'est des modes de culture, c'est des semences qui sont évoluées avec le temps dans les champs. Ça rapporte pas de fric. Et l'État choisit toujours le discours des scientifiques qui intéresse le système capitaliste. Parce que la science, elle peut aussi nous apporter. Quand elle est sur le terrain avec les agriculteurs à faire du bon boulot, on est bien d'accord. Quand les gens ils nous disent les oiseaux et tout ça, c'est aussi des scientifiques qui font ce travail-là. Sauf qu'on n'en tient pas compte. Ça ne rapporte pas d'argent. La science, elle est choisie aujourd'hui par ceux qui nous gouvernent, pour ceux que ça les intéresse, et elle est complètement dénaturée. Mais les scientifiques qui sont dans ce système, il faut aussi dénoncer qu'ils servent un système qui est un système destructeur. On ne leur a pas demandé de nous créer un monde, on nous a demandé de l'expliquer, de proposer des solutions, et c'est à nous de choisir. Ils sont tellement à fond dans leur truc scientifique, il faut jamais les empêcher de faire. Moi, je suis médecin, j'ai des règles de déontologie, j'ai jamais fait quelque chose contre la vie d'un malade, même si je pensais qu'il avait tort. Et eux, ils ont le droit de faire parce qu'ils sont scientifiques et qu'ils font de la recherche. Mais il y en a qui se sont arrêtés de faire de la recherche. Grothendieck, qui s'est arrêté, c'était un grand mathématicien qui était adulé de partout, qui avait des grands prix. Le jour où il a compris que ça servait l'industrie nucléaire et l'armée, il s'est arrêté de faire des recherches. Eh ben, il faudrait que, je leur en demande pas autant, mais à un moment donné, qu'ils soient contestataires et qu'ils voient comment ils sont utilisés. Parce que pour avoir des subventions, ils vendraient leur âme. Moi, je suis désolée, c'est grave. Ils sont en train de naturer une science en laquelle j'ai cru, et je crois encore une partie de certains scientifiques, mais on nous dénature tout, quoi. La science est aussi acheté par le capital aujourd'hui parce qu'ils sont là à baver pour des subventions et toutes ces technologies, ça coûte une blinde. Et tout cet argent qu'on ne met pas, ce n'est pas dans la bonne recherche qui est sur le terrain, dans la recherche alternative pour faire des choses qui sont à notre portée, qui ne sont pas chères en plus.
Ce qui est intéressant, c'est les promesses qui sont mises en avant, quel que soit le dossier considéré. Je vais prendre deux exemples.
Que des promesses.
OGM, il y a 20 ans, on nous a dit on allait nourrir le monde avec les OGM. On nous répète exactement la même chose avec les OGM nouveaux.
Voilà.
Qui échappe aux mailles du filet, je le rappelle. On va nourrir le monde, et puis vous comprenez, le réchauffement climatique, patati patata.
Tout à fait.
Regardez comment on nous met en avant la 5G. On va pouvoir faire des opérations d'un côté du monde, des opérations chirurgicales à l'autre. Nous allons donc sauver les vies. On est un petit peu sur la même logique. Comme si la 5G s'arrêtait à ça, elle n'allait pas augmenter le débit global du flux de données et que ça va être un épiphénomène, le fait de pouvoir soigner quelqu'un d'un bout du monde à l'autre. Mais c'est peanuts dans les désordres provoqués par la 5G de manière générale. On choisit toujours des petites choses très positives, qui sont souvent bien des mensonges, d'ailleurs, pour mettre en avant le technoscientifisme et donc l'orientation choisie par le politique pour aller dans une direction plutôt que d'une autre.
C'est la porte d'entrée, la médecine. Ça excuse tout, mais la médecine, déjà, c'est soigner des gens malades. Déjà, on ferait mieux de voir pourquoi ils sont malades, hein, et de faire tout ce qu'il faut pour pas qu'on soit malade. Donc, la première des choses, c'est de regarder ce qu'on mange, dans quel environnement on vit et dans quel type de société on vit, parce qu'aujourd'hui, elle en crée des pathologies, rien que par le stress, le confinement, l'environnement urbain, etc. Plutôt que de mettre en avant des technologies qui font, du coup, pour sauver une vie en médecine, on fait rentrer tout le reste derrière. Entre une plante malade ou une personne malade, on te fait l'environnement, c'est pas une personne, c'est notre monde. Et puis bon, il y a peut-être aussi d'autres choses à faire, même en médecine, quoi.
Alors résistons, c'est ça?
Résistons. Jean-Claude.
Moi, je pense que bon, toutes ces luttes réunies sur le plateau aujourd'hui ou ces quelques jours sont vitales et urgentes. Celle des faucheurs, c'est pas une lutte du passé, hein. C'est vraiment une lutte d'aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus, donc, vous pouvez aller sur le site des faucheurs, donc c'est faucheurs-volontaires.fr et vous aurez pas mal d'informations. Et puis nous rejoindre, c'est vital.
Au pluriel d'ailleurs, faucheurs-volontaires.fr.
Oui.
Et au féminin aussi.
Fred ?
Un petit mot de conclusion. Il y a également le stand des faucheurs si vous êtes sur le site. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Il y a plein d'informations, vous allez pouvoir discuter avec eux. Et c'est très riche. Et voilà, vous allez pouvoir aussi rencontrer des gens, qui sont d'univers variés, qui ne sont pas que paysans ou qui ne sont pas que médecins. Il y a beaucoup de personnes qui ont diverses activités qui font partie de ce mouvement. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce mouvement, il me semble.
Merci à toutes et merci à tous. Vous êtes sur Radio Résistance et ça continue.
À 15h, rendez-vous.
Oui.
Rendez-vous à 15h au Kaléidoscope pour la conférence gesticulée.
La causerie gesticulée. Il était une faux. On va vous raconter tout ça. Vous allez voir, c'est vivant, c'est animé, c'est plein d'anecdotes. À tout à l'heure.